Notre espérance est en Dieu. Nous ouvrons nos oreilles à sa parole. Nos cœurs s'émeuvent de sa présence. Nos yeux s'ouvrent sur la beauté du monde et des personnes qu'il nous fait découvrir. Et nos bouches chantent la joie qu'il y a d'être ses enfants, recevant de lui maintenant la grâce, la miséricorde et la paix. Nous nous présentons devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le livret liturgique qui est au début du psautier français. « Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux ». L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours, nous dit le psaume. Sur cette promesse, nous levons les yeux vers toi, Éternel, cherchant du secours et de l'aide auprès de toi, notre Créateur. Car tu ne permettras pas que notre pied chancelle sur le chemin de la vie. Toi qui veilles sur nous, tu ne sommeilles ni ne dors, mais tu gardes ton peuple, tu gardes chacun de tes enfants. L'Éternel garde notre départ et notre arrivée. Il convertit notre vie en un heureux cheminement, dès maintenant et pour toujours. Et nous poursuivons dans la louange avec le psaume 47, donc dans le psautier français, les trois premières strophes de ce psaume qui nous appelle à vraiment célébrer les louanges de l'Éternel. Vous pouvez prendre place. Voici ce que Dieu nous dit selon le livre du Deutéronome. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas au ciel. Tu dirais alors, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Ce commandement n'est pas de l'autre côté de la mer, tu dirais alors. Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique? Mais le cheminement que je te propose, c'est au contraire une chose qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu en vives pratiquement. Et avec ce psaume, nous demandons à Dieu son pardon et son aide. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'on puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils, son unique, dans le monde, afin que nous ayons la vie par lui. Et Jésus nous dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en moi. Il y a bien des demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dieu est amour. Nous le chantons avec notre reconnaissance. Et avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessons notre foi. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. » Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement Fils de Dieu. Avec Marthe, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout humain. Et avec le père de l'enfant malade, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors pour ce jour de l'Ascension, d'abord bravo d'avoir pris du temps ainsi dans ce beau pont de l'Ascension, d'avoir pris du temps donc pour chercher ensemble ce que peut vouloir nous dire ce texte, cette fête de l'Ascension. Donc elle est racontée en particulier dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les 14 premiers versets. Donc Luc qui parle aussi un petit peu de l'Ascension, donc à la fin de son évangile, commence par une introduction où il rappelle que voilà, il a écrit un premier livre, un évangile, et qu'il écrit là une suite. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et il leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et un nuage le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et leur dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous ainsi à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il viendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute mon existence. Alors je vous propose de poursuivre avec un autre psaume, donc avec le psaume 25 dans le psautier français, qui nous appelle à vivre par le cœur une ascension. Donc les strophes 1, 2 et 4 du psaume 25. Ô notre Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et soupirer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple et développé la sagesse de l'Évangile, Dieu vivant qui a mis le Magnificat dans la bouche de Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure, qu'elles deviennent pour nous, au plus profond de notre être, ta parole, et qu'elles nous donnent ainsi un cœur de chair, vibrant de foi, d'espérance et d'amour. Thank you. Être chrétien, c'est bien entendu avoir une certaine relation au Christ, chacun à sa façon. Dans ce début du livre des Actes des Apôtres, le mode de relation qu'ont ses disciples au Christ va évoluer. Il est question au début d'apparition de Jésus pendant 40 jours, leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Ensuite, Jésus est élevé et disparaît à leurs yeux, mais il reste des anges qui leur parlent de lui, on pourrait dire une relation au Christ par la mystique. Enfin, il n'y a même plus d'anges, mais juste des hommes et des femmes qui sont unis par leur foi en Christ. Il y a donc différentes relations possibles au Christ et il est possible d'évoluer et l'on a le droit de panacher différents modes de relation au Christ. Je trouve que c'est très libérant d'être chrétien. Alors la fête de l'Ascension nous propose de faire mémoire de cette évolution vécue par les apôtres dans leur mode de relation à Jésus. Un détail montre que selon Luc, l'essentiel est en fait dans l'évolution des apôtres. C'est ce nombre de 40 qui est bien connu dans la Bible. 40 jours, nous dit Luc, pendant lequel Jésus se montre aux apôtres et leur parle de ce qui concerne le royaume de Dieu. Cette durée de 40 jours ou de 40 ans jalonne la Bible, à commencer par les 40 jours du déluge de Noé, les 40 ans dans le désert du peuple hébreu entre l'esclavage en Égypte et la terre promise, les 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir les 10 paroles, les 40 jours de marche d'Élie dans le désert entre le désespoir et la rencontre avec Dieu, et les 40 jours dans le désert de Jésus à lutter contre les tentations et recevoir finalement l'apaisement et cet envoi en mission. Dans la Bible, quand apparaît ainsi un de ces quelques nombres remarquables, cette indication ne renseigne pas sur une quantité, mais sur la qualité de ce dont il est question, sur le sens de ce qu'il est question. Et donc, quand Luc parle de ces 40 jours entre la Passion et l'Ascension du Christ, il n'est clairement pas question de nous renseigner sur une durée de 40 fois 24 heures, mais c'est une interprétation qu'il nous propose en convoquant les textes bibliques qui sont associés à ce nombre, à cette durée de 40 quelque chose. D'ailleurs, pour ce qui est de la période historique entre la mort de Jésus sur la croix et le don de l'Esprit aux apôtres, l'Évangile selon Jean nous dit que cette période ne dure pas plus de 2 fois 24 heures, mais qu'importe. Qu'importe donc ce qu'ont vécu les apôtres il y a 2000 ans, nous dit ici Luc, avec ses 40 jours d'apparition de Jésus. L'important, c'est ce qu'il lui semble, l'important selon Luc, ce qu'il lui semble devoir être retenu de cette expérience des apôtres il y a 2000 ans, c'est que nous puissions profiter nous-mêmes finalement, nous qui sommes amis de Dieu, qui sommes théophiles, lecteurs de son livre, c'est que nous puissions profiter de cette expérience pour la vivre à notre tour. Et c'est ce qu'il nous dit à travers ce chiffre de 40, finalement. Vivre une évolution, vivre une période de maturation. Toujours, que ce soit pour Noé, pour les Hébreux, pour Moïse, pour Élie ou pour Jésus, cette période qualifiée du nombre de 40 marque une période difficile de transformation, quelque chose de long, de pénible, avec pas grand-chose de neuf, mais qui débouche finalement sur un état de leur être où ils sont dans une juste alliance avec Dieu et ils sont prêts pour accomplir leur vie, leur mission. Avant cette difficile évolution, à chaque fois, chacun de ces héros bibliques a été préparé par Dieu, équipé, nourri, afin de la rendre possible. Alors marqué du nombre de 40, la période des apparitions de Jésus aux apôtres, ça relativise finalement ces apparitions de Jésus aux apôtres comme un temps de maturation, un temps d'évolution des disciples eux-mêmes, un temps de cheminement intérieur, une gestation pour leur fécondation, entre leur fécondation et leur naissance. Fécondation qui a été donnée avant en Jésus-Christ et leur naissance qui serait le don de l'Esprit. Alors quand Luc met en parallèle ces 40 jours d'apparition de Jésus ressuscité avec Noé qui est sur son arche. Cela dit que cette période de maturation est comme une purification du Noé qui est en chacun de nous, pour que ce Noé puisse être libéré de sa propre violence. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre, donc dans sa lettre, interprète au sens figuré l'histoire du déluge, comme parlant de la même chose que ce que vient signifier notre propre baptême. Pierre nous dit « L'eau du déluge était une figure du baptême, qui n'est pas la purification de la souillure du corps, bien sûr, mais qui est en réalité l'appel d'une bonne conscience vers Dieu, et qui donc maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel. » Donc Pierre remet les choses à sa place. Ce qui est accompli en Christ pour nous n'est pas comme une purification finalement externe de notre être, qui serait pourri, qui serait abîmé, ni comme un effacement de notre compte de faute et de péché. Ce n'est pas la question. L'amour de Dieu est au-delà de ce type de comptabilité. Mais Pierre nous dit que ce qu'apporte finalement la résurrection du Christ, c'est un enrichissement de notre propre conscience, c'est un profond questionnement qui peut nous faire choisir d'avancer vers Dieu personnellement. Et effectivement, l'histoire de Noé, comme tout ce qu'a fait ou dit Jésus, c'est un appel à convertir notre théologie, à ne plus penser Dieu comme pouvant nous détruire, mais cette histoire nous dit finalement le projet de Dieu, projet de nous protéger dans le danger, et puis ensuite de nous inviter à sortir de cette protection, sortir librement de notre arche quand il n'y a plus de danger. Et donc c'est un appel à une libre fécondité, un appel à remplir la terre de merveilles, nous dit ce texte de la Genèse évoquant la fin du déluge. Alors c'est ce que reprend Luc dans ce récit de l'Ascension. Ils sont dans un temps de maturation, comme Noé dans sa barque, qui attend, qui médite et qui observe. Luc nous invite à méditer sur ce qu'a fait et dit Jésus, à en être purifié, à être émerveillé par l'arc-en-ciel qui nous dit la tendresse de Dieu pour nous, et puis à entendre son projet avec nous, son alliance, son envoi en mission. Cette durée de 40 jours dont parle Luc fait encore référence aux 40 ans dans le désert du peuple hébreu. Cette référence est centrale, bien entendu, puisque cette mort de Jésus coïncide avec la date de Pâques, qui est donc mémoire de la sortie d'Égypte, du début de cette traversée de 40 ans dans le désert. Et ce temps jusqu'à l'Ascension est donc un temps pour que nous cheminions, que nous puissions nous extraire de tout ce qui nous aliène encore, que nous acceptions d'être libres, d'être adultes, pensant par nous-mêmes, simplement confiants, prêts pour franchir le Jourdain et entrer dans cette vie que Dieu nous promet, cette vie éternelle. Cette durée de 40 jours dont parle Luc fait encore référence aux 40 jours de Moïse sur la montagne pour recevoir les 10 paroles. Et donc cela nous appelle non pas tant à apprendre par cœur les paroles de Jésus ou les paroles de la loi, mais à être, grâce à Jésus, comme Moïse, libre, en étant nous-mêmes inspirés directement par Dieu et prenant seul pour cela des temps de retraite, comme le faisait d'ailleurs Jésus aussi, seul sur la montagne, le temps qu'il faut et ne redescendre qu'ayant reçu ce que Dieu voulait nous apporter pour que nous puissions avancer sur notre propre route. Alors cette durée de 40 jours dont parle Luc fait encore référence aux 40 jours de marche d'Élie. Avant de partir, Dieu a nourri Élie miraculeusement d'une galette et d'une cruche d'eau, alors qu'il était désespéré, alors qu'il était à bout de force. Et donc Christ est pour nous cet ange. Il est cette nourriture miraculeuse qui nous est donnée. Il est cette cruche d'eau pour nous désaltérer. Et il est ce repos que Élie peut prendre ainsi. Et alors, nous pouvons avoir la force de marcher 40 jours, nous dit cette histoire d'Élie, jusqu'à la montagne de l'Horeb, où Élie rencontrera le souffle de Dieu. Ces 40 jours, là encore, sont des jours où il ne se passe pas grand-chose de neuf, pas grand-chose de spectaculaire, Tout a été donné avant comme force et le sera après dans une extraordinaire rencontre face à face avec Dieu, comme pour Élie, comme pour Noé, comme pour les Hébreux, comme pour Moïse. Alors cette référence des 40 jours dans le témoignage de Luc nous dit que les apparitions de Jésus parlant du royaume de Dieu, c'est quelque chose de cet ordre, quelque chose comme une digestion de tout ce que Jésus a fait et a dit au cours de son ministère, pour que nous en vivions, que nous puissions l'intégrer dans une qualité de notre être, dans une qualité de notre relation à Dieu, dans une qualité de regard sur ce monde, de relation avec nos frères et sœurs. Cette durée de 40 jours dont parle Luc, eh bien, elle fait enfin référence aux 40 jours de Jésus dans le désert à lutter contre ses tentations et à les vaincre avec l'aide de Dieu. Jésus sort à peine de l'eau de son baptême, où la voix de Dieu lui a dit qu'il était son enfant bien-aimé. Dieu lui a fait prendre ainsi toute la mesure de l'incroyable merveille qu'il est à ses yeux. Comme nous pouvons aussi prendre conscience de notre propre valeur. Mais quel est ce potentiel réellement et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? Eh bien, tout est ouvert, tout est permis, à la fois par nos dons qui sont importants et puis par le chèque en blanc qu'est la grâce, qu'est l'amour de Dieu. Eh bien, ce temps de 40 jours, c'est un temps de combat et d'interrogation, un temps où tout s'entrechoque finalement dans notre tête, dans nos tripes. Alors comme Noé, nous sommes entre la peur et l'enthousiasme. Après les 40 jours, nous pouvons choisir l'enthousiasme avec Dieu. Nous sommes comme les Hébreux entre le train-train de l'esclavage, de la vie quotidienne, et puis le trouble de la marche vers la nouveauté. Et alors, après les 40 jours, nous pouvons choisir la nouveauté avec Dieu. Nous sommes comme Moïse, entre la pensée unique et puis l'esprit prophétique, et choisir d'écouter et de dire des paroles neuves et vraies, et de choisir Dieu plutôt que nos veaux d'or qui sont si rassurants. Nous sommes comme Élie, entre la tristesse d'être mal aimé et la découverte que Dieu est un souffle qui nous est donné et qui nous visite, Dieu lui-même nous donnant de vivre. Et tant de choses nous a été données en Christ que nous avons encore tellement à assimiler, à digérer, à intégrer dans notre propre façon d'être, d'espérer et d'agir. Alors oui, nous avons appris que vivre, c'est aimer, c'est faire confiance. Nous savons que c'est mauvais pour le monde et pour nous-mêmes de faire des petites vacheries aux autres, qu'il serait bon de vivre fidèlement avec Dieu en étant finalement une fontaine de bonnes surprises pour les autres, pour le monde. Nous avons appris qu'il est bon d'espérer et de pardonner. Nous avons entendu parler de cette dynamique de la grâce en voyant Jésus vivre, rencontrer, guérir, parler. Mais tout cela, il nous reste encore à l'intégrer et à le vivre. Oui, il y a encore du travail et les 40 jours ne sont pas de trop. 40 jours qui nous appellent à nous concentrer délibérément sur l'essentiel. Alors ce ne sera pas peut-être littéralement 40 jours, ça peut être 40 secondes de prière, de méditation, de réflexion, 40 ans de réflexion, de méditation, de prière, de cheminement, qu'importe. C'est une période de maturation à vivre. Alors que Jésus se trouvait avec eux, nous dit les Actes, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Alors, dans un certain sens, Jésus nous anime aussi, puisque c'est sa parole, sa personne et sa vie qui nous ont poussés à ouvrir la Bible aujourd'hui, à la recherche de quelque chose qui vienne de Dieu et qui nous animera vraiment. Comment est-ce que cette idée nous est venue, finalement, de compter sur Jésus-Christ pour cela ? Alors, c'est très personnel pour chacune et chacun d'entre nous. Il peut y avoir mille raisons de s'être intéressé ainsi au Christ. C'est peut-être le souffle de Dieu, déjà, qui nous a ouvert à une recherche spirituelle. C'est peut-être le souvenir d'une parole, d'une grand-mère, ou de la parole d'un ami, ou un reportage sur Sœur Emmanuelle, sur François d'Assise, ou sur les Cévennes, qu'importe. Il y a eu ensuite ces textes incroyablement puissants qui sont dans la Bible et qui nous parlent de l'évangile de Dieu. Mais en tout cas, quelque chose de Jésus nous a touchés. Quelque chose du Christ est apparu dans notre vie, nous parlant du royaume de Dieu, d'une action de Dieu qui viendrait tisser en nous quelque chose qui nous rendrait finalement un petit peu fort et bon. Ne pas s'éloigner de Jérusalem, c'est un peu, c'est pas camper dans cette terre problématique finalement qui est dans le Moyen-Orient, mais c'est se concentrer délibérément, volontairement, sur ce qui nous a touchés en Christ dans le passé finalement, ce qui nous a amenés vers lui, et le ruminer cela, et attendre que cela s'incarne en nous. Après cette période qui dure symboliquement 40 jours, et qui est en relation à notre Jésus agissant dans le monde, vient une période où Jésus est élevé et disparaît à nos yeux, leur faisant lever les yeux vers le ciel, mais alors il reste des anges qui les invitent à changer de regard. Alors c'est une période de complexification, où l'on ne comprend plus rien, de trouble, où à la fois notre Jésus disparaît et nous renvoie à Dieu, plus grand que tout, mais où ce même Dieu nous renvoie à Jésus et nous renvoie au monde, comme ces anges que rencontrent les apôtres. Et donc quelque chose se tisse de plus libre et de plus complexe, de plus intérieur et de plus dynamique que simplement de ruminer le Jésus historique. Une tension entre le spirituel et le monde. Et puisqu'il est question d'anges, cette seconde étape de leur construction, elle est de l'ordre de l'expérience spirituelle. Quelle qu'en soit la forme, il y a bien des sortes d'anges, bien des lieux où ils parlent, dans la prière, dans la réflexion, dans la discussion avec un autre, dans le culte ou dans la lecture, dans la méditation, qu'importe. Cette étape, c'est déjà une incarnation, finalement, de ce que le Christ a fait dans leur vie. Elle est cette voix de Dieu qui dit à Noé de sortir de son arche, de sortir librement, d'avancer son propre chemin. Elle est cette voix de Dieu qui dit à Moïse de redescendre de la montagne. Elle est cette voix qui dit aux Hébreux de franchir le Jourdain. Elle est cette voix qui appelle Élie à sortir de sa grotte. Et ce qui permet à Jésus de terminer son temps de retraite spirituelle parce qu'il fait jour et qu'il est temps d'aller vers la foule qui a besoin d'être nourrie par sa parole. Et puis enfin, même les anges disparaissent, nous dit Luc. Il y a juste des hommes et des femmes qui sont unis par leur foi. Et cette promesse et cette vocation d'être porteur d'une parole personnelle jusqu'aux extrémités de la terre, c'est la bonne vieille alliance de Dieu avec Noé et ses enfants, celle d'être quelqu'un de fécond, de nous multiplier et de remplir la terre. C'est la mission donnée à Moïse d'aller vers son peuple et de lui proposer un cheminement avec l'Éternel. C'est la vocation d'Élie de reprendre son chemin par le désert jusqu'à Damas et de porter l'onction à des rois pour qu'ils puissent agir en ce monde et d'oindre Élisée comme prophète à sa place pour prolonger encore son témoignage dans le monde au nom de l'Éternel. Alors Christ devient pour eux donc de moins en moins physiquement présent. Il disparaît pour eux, il est comme digéré finalement. Et au fur et à mesure de cette évolution, les femmes et les hommes qui pensent à lui vont devenir eux-mêmes christiques finalement, eux-mêmes plus acteurs dans le programme divin de salut du monde, chacun à sa façon. Comme le dit Jésus dans l'Évangile selon Jean, « Il est vraiment avantageux pour vous que je m'en aille. » Et ce n'est plus alors, plus seulement la parole de Jésus, la parole historique qui compte finalement. Mais c'est la dynamique qu'il a portée et qui va nous animer maintenant, qui nous envoie chacun pour son compte, et puis tous ensemble en tant que groupe, jusqu'à ce que l'univers entier en soit animé. Être un chrétien de l'ascension, c'est ainsi un effort délibéré de concentration sur l'essentiel et de consécration à cet essentiel. Amen. Et je vous propose de poursuivre cette réflexion en chantant le psaume 240 du petit recueil « Louange et prière ». Vers toi s'élève mon âme, éternel, mon Dieu, mon roi. Vous pouvez prendre place. Alors, en ce jeudi de l'Ascension, nous avons une pensée pour le synode national de l'Église protestante unie de France qui se réunit comme chaque année pendant le pont de l'Ascension. Alors, cette année, il y a une décision importante qui est débattue en ce qui concerne la bénédiction éventuelle à l'occasion du mariage de personnes du même sexe. Alors c'est une décision donc importante, bien sûr, pour les personnes concernées. J'espère que le synode va être éclairé. Alors, samedi, il y a ici un concert spirituel, une cantate de Jean-Sébastien Bach, numéro 43, pour l'Ascension, et puis un lead de Ruth de Peter Eben, avec une méditation donc, de mon collègue James Woody au milieu donc, de ce concert spirituel qui est en fait l'aboutissement du marathon des orgues. Alors c'est une promenade à travers des orgues donc du quartier qui est proposée. Donc il y a le programme que vous trouverez donc sur le site internet, sinon vous pouvez me téléphoner, je vous donnerai le programme. En tout cas, ça se termine ici à 18h avec ce concert spirituel. Dimanche prochain, il y a l'éducation biblique de 10h30 à 16h, et puis il y a donc un culte qui sera présidé par James. Il y a aussi un dimanche après-midi de l'oratoire, donc une promenade qui sera faite par des personnes qui désirent donc avoir ce temps convivial ensemble avec un pique-nique et puis une sortie. Mardi ici même, à 20h, il y a donc une rencontre avec Abdennour Bidar, qui est philosophe et musulman, sur quel humanisme partageable entre l'islam et l'Occident. Comme je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde à cette rencontre, eh bien, il faut venir peut-être un petit peu plus tôt que 20h. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Je vous propose donc de vous unir dans un geste concret de louange pour tout ce que Dieu nous a donné. Nous prions Dieu en suivant du cœur ce psaume. Dieu, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice et qu'ils fassent droit aux malheureux. Montagne, portez au peuple la paix, colline, portez-lui plus de justice. Que tes enfants fassent droit aux malheureux de leur peuple, qu'ils sauvent les pauvres gens, qu'ils chassent le malheur. Alors en ces jours-là fleurira la justice, et il y aura une grande paix jusqu'à la fin des siècles. Dieu délivrera ainsi le pauvre qui appelle, le malheureux sans secours. Ils auront souci du faible, du pauvre dont ils sauvent la vie. Ils les rachèteront à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Et que la terre jusqu'au sommet des montagnes soit comme un champ de blé, que ses épis ondulent comme la forêt du Liban, que la ville devienne florissante comme l'herbe sur la terre, et que le nom de ton Christ dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. Qu'en lui soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de la bonne nouvelle. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu. Béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons, comme un envoi en mission dans ce monde, eh bien cette bénédiction qui est donnée par l'Éternel pour que nous puissions bénir les autres en son nom. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacune et chacun d'entre nous, ô Dieu Sauveur. Amen.